et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Alors dans ce deuxième numéro de la nouvelle formule de l'émission, plus large, plus longue, nous recevons Fabien Roussel. Bonsoir.
Bonsoir, meilleurs voeux à vous.
Vous aussi, candidat donc du Parti communiste à la présidentielle. Merci d'être avec nous. Donc nous dresserons votre portrait, puis la séquence aphorisme, Frédéric.
L'aphorisme, vous le savez, Fabien Roussel, c'est une formule, une pensée synthétisée en quelques mots. Je vous demanderai donc de vous prêter à cet exercice sur différents sujets. Pour l'ancien journaliste que vous êtes, ça devrait être une formalité, voire un plaisir.
C'est un plaisir.
Et le monde devant vous, avec des questions internationales et parfum de campagne avec la chronique de Karim Yayaoui en fin d'émission. Mais tout de suite, le portrait. Alors Fabien Roussel, seriez-vous un candidat communiste du troisième type? Une sorte d'ovni atterri place du colonel Fabien, l'historique siège du PC. Vous êtes sous le feu des critiques en ce moment pour avoir dit qu'un bon vin, une bonne viande et un bon fromage, c'est la gastronomie française. On vous a traité de franchouillard, avide de bidoche, un réac en quelque sorte. Vous avez trouvé cette polémique affligeante et ridicule, mais quand même, vous avez été obligé de vous expliquer. On vous reproche d'être pro-industriel, pro-nucléaire, de défendre les policiers et de parler de sécurité et d'immigration. Vous êtes bien vu par les gens de droite, et notamment par les membres du printemps républicain, ce qui fait tiquer chez vous. Votre sujet, c'est la valeur travail, qui est une valeur considérée comme de droite aussi. Vous gardez vos fondamentaux, hausse du SMIC, nationalisation des grands groupes bancaires ou d'EDF, recrutement de 500 000 fonctionnaires. Vous, l'ancien journaliste, vous avez compris qu'il fallait redonner du peps à votre parti. Depuis des décennies, la lumière s'éteint lentement, place du colonel Fabien. Serez-vous celui qui tournera l'interrupteur pour, dans l'autre sens pour rallumer un peu la flamme?
C'est une question?
Oui, c'est une question. Oui, non, je pourrais continuer comme ça, mais...
Mais l'enjeu, c'est pas de rallumer la lumière place du colonel Fabien. L'enjeu, c'est de redessiner un avenir pour la France et faire en sorte que le monde du travail, ceux qui sont en première ligne depuis 2 ans aujourd'hui, ceux qui, dans l'histoire de notre pays, ont contribué aux grandes conquêtes sociales, et même à bâtir notre modèle social, je pense à la création de la sécurité sociale au lendemain de la guerre, à ces 30 glorieuses, ce monde du travail, eh bien, qu'il redevienne la priorité des politiques françaises, qu'on lui fasse confiance, que les salariés ne soient plus considérés comme un problème ou comme un coût, mais plutôt comme la solution et comme une chance pour notre pays. La richesse de la France, c'est celle issue du monde du travail, celle issue de ses salariés. Et moi, je veux porter cet espoir-là. Et il n'y a que ça qui me préoccupe. Je ne suis pas le candidat d'un parti. Je suis le candidat de dizaines de milliers de personnes issues des usines, des champs, des services publics, des élus locaux qui me soutiennent et qui veulent justement qu'il y ait une voix à gauche nouvelle.
Vous dites une voix nouvelle à gauche. Alors, est-ce que vous faites un peu de triangulation sur les thèmes de la droite? Et ça amène à une question, forcément. Y a-t-il un changement de cap idéologique au Parti communiste français qui plaisait aux classes populaires, celles qui vous ont largement quitté pour le Rassemblement national,
mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, en fait, dans ces commentaires qui sont faits sur les méprises de position. En quoi je serais classé à droite parce que je défends...
Parce que les gens de droite vous aiment bien.
...française.
Les gens de droite vous aiment bien.
Je défends l'industrie nucléaire qui est pour moi symbole d'électricité moins chère pour les ménages comme pour les entreprises. Parce que je défends la sécurité et la tranquillité publique pour tous. Alors que justement sur ces terrains-là, la droite porte une énorme responsabilité puisque c'est elle, Sarkozy en l'occurrence, qui a privatisé EDF et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes totalement dépendants des autres pays concernant la fixation des prix de l'énergie, alors que c'est la droite qui a contribué fortement à la délocalisation de pans entiers de notre industrie, et avec des grands groupes qui ont fait le choix de délocaliser nos usines dans les pays d'Asie ou dans des pays à bas coût, ils ont défendu des traités européens mortifères pour notre industrie et nos services publics. Alors, comment peuvent-ils dire tout cela concernant ma candidature alors que je porte des valeurs qui défendent le monde du travail, qui défendent nos services publics, qui défendent le salaire plutôt que le RSA? Je suis au contraire...
Mais sur l'immigration, vous avez...
Est-ce que vous vous sentez une filiation particulière avec Georges Marchais?
Oh, j'ai un profond respect pour le grand dirigeant qu'il était. Comme beaucoup de Français, j'ai beaucoup d'affection envers l'homme et le dirigeant politique qu'il était. Je dis aussi qu'à l'époque où Georges Marchais était dirigeant du Parti communiste français, candidat aux élections, c'était il y a plus de 40 ans maintenant. Et le monde a changé, la France a changé. Et donc nous avons, nous, un discours aujourd'hui adapté à notre époque, adapté aux nouvelles réalités, que ce soit à l'international, on va en parler, mais aussi à la situation économique de notre pays. Et donc, nous avons aujourd'hui un discours pour répondre à l'urgence climatique qui est bien sûr différent de celui que l'on avait il y a 40 ans. Et donc, nous avons aujourd'hui travaillé à un programme, que je présenterai d'ailleurs la semaine prochaine, qui est véritablement ancré dans... la réalité économique de notre époque. Et aujourd'hui, on a un capitalisme ravageur, qui fait que pendant la crise, des milliardaires se sont encore enrichis. Vous avez vu ce chiffre?
Le rapport d'Oxfam.
Enfin, les milliardaires français, ça en deux ans de temps, ont gagné 230 milliards d'euros de plus.
Vous et l'Élysée, ça ne serait pas arrivé, ça?
Ah, mais certainement. Ah, bah ça, c'est clair que ça ne serait pas arrivé. Enfin, si aujourd'hui, des milliardaires français continuent, réussissent à s'enrichir... sur le dos de cette crise, pendant cette pandémie, c'est parce que, justement, il y a un gouvernement avec à la tête président Macron, le président des riches, qui a décidé d'ouvrir les robinets de l'argent public en déversant de l'argent en direction de ces multinationales et de ces plus riches, sans aucune contrepartie, sans rien demander en échange.
Oui, mais...
Les gars, ils se sont goinfrés d'argent public. Il y a une véritable mutation du capitalisme aujourd'hui, qui est un capitalisme qui, en plus d'exploiter, d'épuiser la planète et les hommes, demande en plus de l'argent public qu'il distribue à ses actionnaires. C'est notre argent qui
est dans leur poche. Mais justement, Fabien Roussel, il n'y a jamais eu autant d'inégalités. C'est vrai, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, avec une classe moyenne qui galère. Le sujet de la gauche, c'est la lutte des classes, c'est le combat social. Pourquoi la gauche est-elle aujourd'hui totalement inaudible, il faut le dire, alors que, ce que je viens d'expliquer, ces inégalités sont là. Comment expliquez-vous d'avoir autant tort face à l'histoire?
Autant
vous,
tort
la gauche.
Face à l'histoire?
Oui, vous, face à l'histoire, vous avez tort, puisque la gauche, plus personne ne l'écoute vraiment. Si on regarde aujourd'hui, le socle de la gauche, c'est 25%.
Oui,
vous êtes éparpillés tous façon peuple.
Face à l'histoire, je dirais que dans l'histoire de France, justement, dans l'histoire d'après-guerre, la reconstruction de la France, quand le peuple s'est uni pour des grandes conquêtes sociales, je pense notamment donc, à cette reconstruction de la France, à notre modèle social qui existe aujourd'hui, nous avons, nous, communistes, nous, la gauche, été aux côtés du peuple, aux côtés du monde du travail, aux côtés des syndicats, pour obtenir ces grandes conquêtes sociales. Ce qui s'est passé par la suite...
Mais ça, on revient pas sur l'histoire.
Ce qui s'est passé par la suite...
On parle de maintenant.
Mais ce qui s'est passé par la suite, dans la période la plus récente, c'est que quand une partie de la gauche est arrivée au pouvoir, elle a tourné le dos aux attentes du monde du travail. Elle a tourné le dos aux aspirations du peuple à vivre dignement. Elle a déçu, elle a trahi même. Elle a défendu des traités économiques européens dévastateurs. La présidence de Hollande, avec Macron, Christiane Taubira et d'autres dans son gouvernement, ce sont eux qui ont mis en place les ordonnances Macron, la loi El Khomri, qui a retiré des moyens d'intervention pour les salariés dans les entreprises. Enfin, ils ont une responsabilité importante dans le fait que la gauche aujourd'hui a perdu du crédit. C'est ça, moi, justement. Je veux tourner la page de cette gauche-là. Je voudrais en écrire une nouvelle, fraîche.
Eh bien, on va essayer
une page qui réponde justement aux attentes du peuple. Moi, je souhaite être résolument de ce côté-là.
Votre slogan de campagne, il est ambitieux, c'est « La France des jours heureux ». Ce à quoi vous aspirez aujourd'hui, est-ce que c'est de retrouver une France perdue ou est-ce que c'est d'en construire une nouvelle, une qui n'a jamais existé?
Ah, mais c'est dire qu'il est possible de mettre en œuvre des réformes heureuses. Parler de bonheur et de réformes heureuses en disant que l'argent est là, ouais. Il existe, il coule à flot, mais pour quelques-uns ouais. Et une minorité. Et de dire que, au contraire, il faut s'attaquer à ce mur de l'argent. Il faut reprendre le pouvoir sur l'argent et le mettre au service de tous, au service du bonheur commun. C'est possible.
Si vous permettez, vous répondez un peu à côté de ma question. Ce que je vous demande, c'est est-ce que cette France des jours heureux, elle a existé? Est-ce que la France a connu des temps de jours heureux?
Mais quand,
et que c'est vers ça que vous voudriez en quelque sorte retourner?
Nous avons, je pense, il m'arrive de faire référence parfois aux Trente Glorieuses. Ouais. À cette période où la France s'est reconstruite au lendemain de la guerre, quand la France était en ruine, que les finances étaient exsangues, nous avons réussi à reconstruire la France. Et je le dis avec d'autant plus de force qu'à l'époque, le Parti communiste français était le premier parti de France, qu'il était fort, influent dans le pays. Il a gouverné avec le général de Gaulle. Et nous avons contribué à reconstruire cette France avec le peuple travailleur, justement, ce monde du travail qui est aujourd'hui méprisé. Alors, et qui n'est pas respecté. Donc, nous avons la démonstration qu'il a été possible de reconstruire la France à un moment donné où, justement, c'était difficile. Aujourd'hui, on n'a même pas ces problèmes d'argent. Quand vous voyez la Banque Centrale Européenne qui arrive à imprimer, à faire tourner la planche à billets pour injecter 1 800 milliards d'euros dans l'économie pour faire face à la pandémie, le quantitative easing, c'est 1 800 milliards d'euros donnés au marché financier au lieu
d'être adressés aux États. Mais c'est aussi le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. Avec la bénédiction de la BCE, on a sauvé des tas de gens de la faillite.
Non mais on a sauvé quoi? On a sauvé les dividendes des grands groupes, vous rigolez ou quoi?
On a sauvé quand même les gens de la faillite.
Mais vous-même, vous venez de dire il y a quelques minutes que les riches sont plus riches et que la pauvreté a augmenté.
Oui, bien
donc,
sûr.
Non, l'argent a été... Excusez-moi. Mais ces 1 800 milliards d'euros ont été distribués sans objectif, sans critères précis. Et donc, ils ont contribué
à augmenter... Ils ont touché ceux qui en avaient besoin, mais aussi ceux qui n'en avaient pas besoin. C'est ça que vous voulez dire, au fond.
Mais, c'est comme
mais ils n'ont pas aidé à soutenir nos hôpitaux publics. Ils n'ont pas aidé à soutenir notre école qui est aujourd'hui en souffrance. Ouais. Ils n'ont pas permis, deux ans après la crise, ils n'ont pas permis à mettre en formation ceux qui pourraient aujourd'hui être formés et être dans nos hôpitaux et dans nos écoles. En fait, cet argent public, ces 1 800 milliards d'euros n'ont pas été mis au service de la nation, des besoins du pays, de la relocalisation de l'industrie, de la défense de nos services publics. C'est ça que nous reprochons. Il n'y a pas de problème d'argent dans le pays. Il n'y a pas de problème d'argent.
Il y a une dette quand même.
Attendez,
non, je vais pas mettre une pièce dans la machine.
Mais même cette dette. Enfin, vous savez très bien que le problème de la dette, ce sont les intérêts que nous payons banques.
Oui.
Parce que la BCE, elle ne prête pas aux États, elle prête aux banques, qui ensuite prête aux États. Et nous, on paye les intérêts. 38 milliards d'euros par an d'intérêts bancaires. Voilà. Donc le problème, ce n'est pas la dette, c'est les intérêts que l'on a payés et qui nous coûtent cher.
Je voudrais revenir quand même sur... parce que vous faites grincer quelques dents quand même au Parti communiste. Oui, vos positions sur l'immigration, par exemple. Mais sur ces attaques dont vous avez été victime parce que vous avez parlé de bon vin, de fromage, etc., qui ont été très violentes d'ailleurs. Vous avez dit... j'en ai marre de ces intellectuels condescendants qui n'arrêtent pas de nous donner des leçons sur nos pratiques, qui nous disent ce qu'il faut manger. Ça a choqué beaucoup de communistes qui sont très attachés, dans le fond, au lien entre politique et intellectuel. Ce qui était le cas, effectivement, on se souvient, avec Sartre, des Boat People, etc., des intellectuels communistes qui prenaient une place dans le débat. C'est comme si vous rejetiez d'un revers de main ce rapport... des intellectuels à la politique et en particulier au Parti communiste français.
C'est juste et je n'aurais pas dû prononcer ce mot intellectuel. Et ce n'est pas à eux que je pensais parce que nous avons effectivement une relation forte avec, dans notre histoire avec les intellectuels de notre pays et encore aujourd'hui. Et donc, ce n'était pas le bon mot. En fait, je voulais...
Vous faites un petit mea culpa, là.
Non, oui, parce que je le sais, mais je l'ai dit et je me suis adressé à quelques-uns qui se sont sentis concernés en disant que bien sûr, ce n'était pas... à eux que je pensais, mais je pensais à ceux qui nous font la leçon tous les jours, ces bien-pensants, ceux qui nous font la leçon tous les jours et qui sont là pour nous interdire tout, Hein, il faut interdire la viande, il faut interdire les sapins de Noël, il faut interdire le Tour de France, il faut interdire le foie gras.
Là, c'est clairement les écolos que vous visez, en fait.
Non, hein. Il faut interdire les centrales nucléaires.
Encore ?
Oui, mais que les écolos, entre nous, sur les centrales nucléaires.
Foie gras,
entre,
Tour de France, sapin...
Entre les insoumis et les écologistes, je peux vous dire qu'ils sont une bande, quand même, dans ce camp-là, à nous dire que nous n'avons pas besoin, aujourd'hui, de produire d'électricité nucléaire, alors que nous en avons, au contraire, un grand besoin. Et donc, ils sont là pour tout interdire. Mais si, justement, on essayait d'avoir un autre rapport, justement, à la vie, à répondre aux besoins de nos concitoyens, à la grande majorité des Français, mais nous avons besoin, au contraire, de permettre à chacun
donc d'avoir accès... la bouffe, la sécurité...
Mais d'avoir accès à une bonne alimentation. Et moi, je respecte tout à fait ceux qui ne veulent plus manger de viande ou qui veulent manger végétarien. Et c'est bien, et tant mieux, je respecte parfaitement ce choix-là. Moi-même, j'ai réduit ma consommation de viande parce que, pour la santé, c'est mieux. Et pour la planète aussi. Mais si on veut nourrir les 7 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté et qui font la queue des banques alimentaires, et moi, je suis pour qu'ils puissent manger, comme moi, de la viande 3 à 4 fois par semaine et leur garantir. Et donc, pour cela, il faut leur donner les moyens de pouvoir avoir accès à cette viande, avoir accès à des bons fromages, parce que ça coûte cher, le fromage, mais avoir accès à d'autres plats de la gastronomie de notre pays. Et donc, c'est une question de pouvoir d'achat.
On reparle de ça, et Roselyne en parlait dans le portrait qu'elle a fait de vous. C'est tout juste si vous n'avez pas été traité de facho.
J'ai été traité de facho.
Facho, parce que vous avez dit que vous aimez le bon vin, le bon fromage, et une bonne viande. Alors, vous en avez, en quelque sorte, remis une couche dimanche dernier, avec un tweet... où vous avez célébré le plaisir du repas de famille du dimanche midi.
Tout à fait. C'est suffisamment rare pour que, quand ça nous arrive, avec les enfants...
Est-ce que ce qu'on vous reproche, finalement, ça n'est pas d'être ancré dans un certain nombre de valeurs traditionnelles ? Je n'ai pas dit de droite, j'ai dit traditionnelles.
Ça dépend ce que vous entendez par traditionnel.
Le repas du dimanche, il était entré, je crois, au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Et d'ailleurs, je ne vois pas en quoi c'est mal de respecter
les traditions. Vous ne voyez pas en quoi, mais est-ce que vous vous demandez... est-ce qu'en effet, ça ne dit pas qu'une partie de la gauche a des réflexes...
Je ne crois pas, d'ailleurs. Nous sommes... qui peut dire que le Parti communiste français ne serait pas de gauche ? Mais enfin, je vous rappelle que...
Mais pas de la même gauche, peut-être.
Nous, ce que nous sommes, c'est aussi la fête de l'UMA. C'est quand même aussi un grand lieu et un grand rendez-vous et politique, mais aussi de la culture et de la gastronomie. Et même de la gastronomie internationale avec le Village du Monde. Nous sommes le parti qui aimons les traditions et notamment celui des banquets populaires, des bals populaires que nous organisons tous les ans et dans de nombreux départements parce que nous avons ce rapport à la politique et à la convivialité qui fait notre force et qui est dans notre histoire. On est comme ça. Maintenant, je suis le seul, que je suis le seul candidat qui habite hors du périph, qui n'est pas parisien. Ouais. Moi, je vis dans mes terres du Nord, je sais d'où je viens, je suis un ch'ti. Peut-être que j'ai un rapport différent avec la vie, avec les gens, qui fait que je suis comme ça, je parle comme ça, et j'ai ces positions qui sont les miennes et qui sont naturelles et sincères.
Il y a aussi les critiques sur vous. C'est par exemple votre posture sur l'immigration. Vous dites que les étrangers en situation doivent quitter le territoire. Je reprends le mot posture, c'est pas une posture de gauche, on va dire. En tout cas, certains communistes ne se retrouvent pas dans ce que vous dites là.
Alors,
soutien aux policiers, puisque vous étiez allé à la manif pour soutenir les policiers.
Ça fait plusieurs sujets. J'ai fait le choix de prendre la question de la sécurité bille en tête dans les premières semaines où j'ai été déclaré candidat. D'abord parce qu'il y avait eu ces deux drames de deux policiers tués. Et donc ça avait suscité une émotion légitime dans le pays, et il était important pour moi de dire que les policiers ont besoin de notre soutien, d'une part. Mais d'autre part, je trouve que la droite a fait des dégâts terribles concernant notre police. C'est encore le président Sarkozy qui a supprimé 15 000 postes de policiers. Aujourd'hui, ils ont à peine été recréés. Il y a plus d'habitants, il y a plus de besoins, il y a la menace terroriste islamiste. On doit donc investir dans nos forces de sécurité intérieures. Et de la même manière, si nous voulons protéger les femmes victimes de violences sexuelles et sexistes, si nous voulons qu'il y ait des policiers formés dans les commissariats, mais il faut pour cela des moyens humains, il faut réouvrir des commissariats. Et nous avons besoin
sur l'immigration,
de développer la protection.
Oui. Sur l'immigration, la question quand même.
Très vite sur l'immigration, parce qu'il faudrait qu'on parle
J'ai eu l'occasion de préciser cette phrase, on m'a reproché de prononcer une phrase et en fait, je n'ai pas développé derrière. Mais nous demandons, nous, en matière d'immigration, à revoir la politique du droit d'asile, à faire respecter le regroupement familial. Vous savez ce que c'est que le regroupement familial ? C'est permettre à un couple de vivre ensemble, de s'aimer, de pouvoir se marier. Aujourd'hui, tout est fait pour empêcher un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, de vivre ensemble. Je le vis dans ma terre, chez moi, quand je vois ces hommes, ces femmes qui cherchent à traverser la mer du Nord pour rejoindre un conjoint ou une conjointe en Angleterre et qui sont empêchés, qui risquent leur vie. Vous avez vu ce terrible drame avec ces 27 personnes qui ont perdu la vie, dont cette femme qui voulait rejoindre son époux. Eh bien, je suis, moi, pour prendre leur défense, permettre à ces familles de vivre ensemble. Même le pape interpelle les chefs d'État de l'Union européenne en disant qu'ils sont responsables de ces drames qui surviennent en Méditerranée et en mer du Nord, qui ne doivent pas devenir des cimetières.
Bon, un petit mot, on va parler de politique internationale dans un instant. Un petit mot peut-être de Jean-Michel Blanquer. Il s'est expliqué cet après-midi à l'Assemblée nationale, on n'est pas obligé de l'écouter, sur le fait qu'il était à Ibiza au moment où il a annoncé le protocole Covid à la veille de la rentrée. Bon, beaucoup de responsables de l'opposition ont dit qu'il fallait qu'il démissionne. Est-ce que c'est une faute lourde ou est-ce que c'est juste une maladresse ?
Alors, c'est une faute que pendant la pandémie, à la veille d'une rentrée difficile, avec une cinquième vague, qu'il n'ait pas pris le soin de recevoir les syndicats et de travailler un protocole qui soit viable et qui permette de sécuriser les écoles.
Mais le fait qu'il a préféré... Non, on parle du fait qu'il était à Ibiza. Est-ce que c'est anecdotique ou est-ce que c'est révélateur
Le problème, c'est qu'il est parti en vacances sans avoir fait ses devoirs.
Il avait emmené son cahier de vacances.
Il est allé faire le DJ des soirées mousse à Ibiza et pendant ce temps-là, les profs ne savaient pas comment la rentrée allait se passer. Résultat des courses. Pas suffisamment d'enseignants dans les écoles parce qu'ils sont frappés par la pandémie. Résultat des courses, il fait le choix de faire peser la politique du test aux parents. Et c'est les parents qui se retrouvent à faire la queue pendant 2 heures devant les pharmacies parce qu'ils n'ont pas été capables de distribuer des tests dans les écoles et les classes pour que ça soit fait à l'école, comme ça se fait d'ailleurs en Allemagne. Et donc, il est incompétent. Voilà, il est incompétent. Et le président de la République a aussi sa responsabilité. Parce que c'est lui qui est aujourd'hui comptable de la politique qui est menée.
Alors, on va passer, il est 18h32, nous allons passer maintenant à aborder les questions internationales. Le monde devant vous. Alors Emmanuel Macron, demain, va s'exprimer devant le Parlement européen pour donner le coup d'envoi de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le président de la République veut une Europe, on se souvient, il l'a dit plusieurs fois, indépendante et souveraine. Est-ce que vous partagez cette ambition ?
J'ai de grandes ambitions, moi, pour l'Europe, justement. Et je souhaiterais que les objectifs de la présidence de l'Union européenne soient d'abord de se dire qu'on doit éradiquer le chômage et la pauvreté qui s'installent dans les pays de l'Union européenne. 90 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans l'Union européenne sur 450 millions d'habitants. Ça fait 20% de la population. Ils nous avaient promis, parce que nous n'y avons jamais cru, ils nous avaient promis avec les traités européens, Maastricht, Lisbonne et compagnie, la prospérité. Elle est où, la prospérité ? Ils nous avaient promis la paix. Et quand je vois que tout est fait pour jouer le conflit permanent avec la Russie et que les tensions n'ont jamais été autant exacerbées, elle est où, la paix ? Je suis très inquiet sur cette situation. Et j'interpelle d'ailleurs, je l'ai dit hier, les chefs d'État de l'Union européenne. Parce que je ne voudrais pas que le président Macron se serve de cette présidence comme un marchepied pour sa campagne électorale de l'Élysée. Les défis et les enjeux sont tellement importants Vous pensez qu'il aurait indigne qu'il utilise.
Il aurait dû la reporter. Il aurait dû demander est-ce que cette présidence française soit reportée.
Mais enfin, ça arrive une fois tous les 13 ans.
Et qui s'est dit, c'est quand même ballot de passer à côté.
C'est surtout ballot quand on a une campagne électorale et qu'on a l'ambition de s'en servir. Alors que la guerre couve aux frontières de l'Europe. Alors qu'il y a.
Mais en quoi la présidence française pourrait le servir dans la campagne présidentielle française?
C'est pas sur les questions internationales que se fait l'élection, vous le savez. D'accord, mais vous le voyez déjà qu'il va multiplier les interventions, les tribunes, et pouvoir s'exprimer, y compris sur la politique nationale, et puis faire des grandes déclarations avec des beaux discours et des belles intentions, et rien derrière, zéro. Quel traité va-t-on mettre à l'ordre du jour pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de chômage, qu'il n'y ait plus de pauvreté dans l'Union européenne? Comment fait-on pour qu'il n'y ait plus de concurrence déloyale? Comment fait-on pour que les salariés, les ouvriers d'Europe ne soient plus mis en concurrence entre eux? Bridgestone à Béthune, c'est chez moi. Bridgestone à Béthune a été délocalisé en Hongrie parce que l'Union européenne organise les délocalisations et la concurrence entre les salariés d'Europe. Eh bien, de cette Europe-là, nous ne voulons plus. Et moi, c'est une présidence comme ça que je souhaite de l'Union européenne. C'est-à-dire une présidence qui va mettre fin à ces délocalisations et à cette concurrence entre les peuples.
Fabien Roussel, vous êtes, et on l'a vu là, souvent en première ligne pour dénoncer les injustices, pour dénoncer ce combat social, dénoncer les atteintes aux droits de l'homme, aux libertés publiques, en Europe, en France, dans le monde. Mais vous êtes beaucoup plus discret sur ce qu'il se passe en Chine.
Ah bon ?
Quel est votre rapport avec le Parti communiste chinois ?
Pourtant, je me suis exprimé à de nombreuses reprises là-dessus. Je m'y suis rendu,
pas chez nous.
D'ailleurs. Vous ne m'avez pas invité, mais maintenant vous m'invitez à le faire, je le fais. Je n'ai pas de problème. Je suis allé en Chine, j'ai rencontré...
Combien de fois ?
Une fois. J'ai rencontré les dirigeants chinois. Et moi, je peux dire que je n'ai pas de langage hypocrite avec eux. C'est-à-dire que je suis autant en capacité de leur parler de respect de la dignité humaine, de leur dire que sur le parti unique et leur modèle démocratique, que nous sommes en désaccord et que nous ne le partageons pas, mais je suis aussi en capacité de dire que les délocalisations de nos entreprises vers la Chine, avec moi, président de la République, c'est terminé. C'est-à-dire que moi, je ne tiens pas un double langage. Et j'entends, je vois d'ailleurs, toutes les forces politiques, de droite comme de gauche, qui font des grands moulinets sur les droits de l'homme en Chine, mais de l'autre côté, s'en vont là-bas pour négocier le
C'est vrai ce que vous dites. Est-ce que le parti communiste français... Oui, bien sûr.
Non, mais quand Renault et Peugeot délocalisent là, en ce moment, la production de véhicules en Chine, elles vont être produites avec des usines à charbon. On parle du climat, on parle du chômage, on parle de délocalisation. Ils le font
là,
encore.
Là, vous noyez le poisson.
Mais je ne noie pas le poisson. C'est pour moi essentiel.
Enfin,
il y a un président de la République qui dit « c'est terminé ». Moi, je suis un président de la République qui a dit aux Chinois « ça, c'est terminé ». J'ai dit aussi aux Chinois que nos gares, nos aéroports ne sont plus à vendre.
Est-ce que le Parti communiste français est financé en partie par le... Ou c'est un mythe ? Je vous pose la question.
Bien sûr, c'est un mythe, mais enfin, vous rigolez.
Je vous pose la question, puisque
vous savez que nous sommes contrôlés, archi-contrôlés.
D'accord.
Et bien heureusement... Et que je suis bien... Heureusement que la transparence est de mise là-dessus. Mais est-ce que vous posez la même question aux Républicains quand vous les recevez? Vous savez que les Républicains ont les mêmes noms que les Républicains
américains.
De Trump américains. Vous faites le parallèle avec eux? Vous leur dites, au fait, votre ami Trump, il vous finance, vous avez des liens avec eux? Faites les parallèles?
Non, mais on sait que le lien entre le PC français et le PCF...
Vous devriez interroger Jean-Pierre Raffarin, puisque c'est le plus grand...
Il va souvent en Chine, vous avez raison.
Il ne sait pas qu'il va souvent en Chine, mais pourquoi vous ne lui posez pas la question? Il a un bureau là-bas, il a un bureau à Shanghai, il fait du business, il est payé par eux. Pourquoi vous posez
Fabien
pas
Roussel, juste d'un mot, Fabien Roussel,
puisque vous dites que
vous dites, vous parlez franchement chinois sur les Ouïghours, vous leur dites quoi? Que c'est un génocide?
Parce
que c'est le terme qui est aujourd'hui employé par les autorités internationales.
J'ai dit que justement, quand on lutte contre l'islamisme, quand on lutte contre le djihadisme, puisque c'est ce qu'ils disent les autorités chinoises, c'est inadmissible de faire l'amalgame avec tous les musulmans et donc tous les Ouïghours. Voilà, ça, nous le disons. Et donc, nous disons qu'il n'y a aucune atteinte à la dignité humaine défendable dans ce pays, en Chine et ailleurs. Nous avons toujours, nous, été pour la défense des droits de l'homme, des droits de l'être humain. C'est dans notre histoire.
Allez, et nous, alors, vous voyez, temps, il va falloir qu'on parle de vous un peu
aucune,
maintenant.
Aucune difficulté à leur dire, à le dire et à vous le dire. Mais je vais beaucoup plus loin que ça.
Voilà qui est clarifié. Alors, il est 18h37, on va passer à l'aphorisme, qui est le moment de Frédéric et que j'attends avec impatience.
Alors, Fabien Roussel, donc un aphorisme, je le rappelle, hein, c'est une formule très brève pour résumer une pensée sur un sujet. En voici quelques-uns pour l'exemple. La nature fait les hommes semblables, la vie les rend différents, Confucius. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat, Jean-Jacques Rousseau. La liberté commence où l'ignorance finit, Victor Hugo. Ou encore, puisque c'est toujours agréable d'en avoir un plus léger, les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. Pierre Dac, qui en temps de présidentiel, évidemment, est assez opaque. Donc, je vais vous demander de vous prêter à cet exercice, de faire appel à votre sens de la formule. Vous qui avez été journaliste, donc en principe, vous devez avoir des dispositions. Je vais vous soumettre quelques thèmes. Et le premier est très simple, enfin, en tout cas, est très vaste, la démocratie.
C'est la plus belle idée à défendre.
Le communisme.
C'est la plus belle idée à défendre.
Vous arrêtez là, hein, parce que là, je sens que vous pourriez me le refaire. Le travail.
Le travail est le propre de l'homme. C'est la richesse de notre pays.
Ça n'est pas le rire, le propre de l'homme, donc.
Eh bien, justement, parce que j'ai fait une dissertation là-dessus. J'ai eu une dissertation.
Mais on ne se lance pas dans un grand développement.
Sur le rire et le propre de l'homme. Ouais. Et moi, je l'avais fait, oui, et le travail aussi. C'est ce qui nous distingue des animaux.
Le pouvoir.
Le pouvoir est dangereux. Le pouvoir au peuple.
La richesse.
La richesse de la France, ce sont les hommes et les femmes qui la font vivre et qui travaillent.
Ouais. Alors là, vous avez un peu anticipé, parce que j'allais vous demander la France. Mais je ne parle pas de la richesse de la France, la richesse. Le concept de la richesse, de quoi est-on riche, par exemple? Oui.
Mais la richesse est celle que l'on pourrait imaginer comme celle qui est dans les coffres-forts. Mais pour moi, la richesse, c'est d'abord la richesse humaine. C'est la richesse des hommes et des femmes. Et c'est la plus belle des richesses que nous avons.
Donc, la richesse, c'est l'homme.
Et donc, c'est l'homme. L'homme,
le genre humain.
Femme. Oui, c'est le genre humain. Oui. Mais la plus belle des richesses, la plus grande des richesses de notre pays, ce sont les hommes et les femmes de notre pays.
La France?
C'est la France des jours heureux, c'est celle que j'aspire et que je veux construire. Ouais. Et donc, c'est mon pays et c'est le plus beau des pays.
Et enfin, l'humanité.
L'humanité, je vais penser au journal L'Humanité.
Bah oui, mais c'était un peu le sous-entendu.
Mais parce que j'en profite pour dire que le pluralisme de la presse est important à défendre. Il faut défendre le pluralisme de la presse et pour cela, nous avons besoin de ce beau journal L'Humanité qui va se transformer avec une nouvelle formule dans quelques jours.
Alors, merci de vous être prêté à cet exercice. On va maintenant quitter un peu les chemins strictement de la politique pour essayer de faire un peu mieux connaissance avec vous, sur un plan plus personnel.
Donc, tout n'est pas politique, jingle. Alors, Fabien Roussel, qu'est-ce qui vous énerve le plus dans la vie? C'est quoi votre bouton rouge pour vous énerver?
Ce qui m'énerve le plus
dans la vie
Ce qui va m'énerver le plus, franchement, ça ne vient pas tout de suite. Ce qui m'énerve le plus, c'est le mensonge. Mmh. Si, alors ça m'énerve. Ça me fait hurler en politique, hein, quand j'entends des...
Oui, mais là, on sort de la politique, hein.
mais
dans la vie.
Le mensonge tous les jours. Mais le mensonge, l'hypocrisie, le mensonge, en tout, le mensonge, il n'y a rien de pire.
Qu'est-ce qu'un bon journaliste pour vous?
Un bon journaliste?
Oui, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez définir un bon journaliste? À quoi vous le reconnaissez? Vous le sentez? Vous avez le flair?
Justement, c'est un journaliste sincère qui, y compris, exprime une opinion, parce que je considère qu'un journaliste, il n'est pas, il exprime toujours un sentiment, une opinion, parce qu'il a une histoire.
Vous voulez dire que l'objectivité n'existe pas?
Non, pour moi, l'objectivité n'existe pas.
Vous auriez pu répondre, ce sont les deux qui sont ici sur ce plateau, ça aurait été simple, ça passait tout de suite à autre chose. Mais bon, aussi. Vous n'avez pas saisi la perche que je
vous tendais. Il y avait une belle définition. Il y avait une belle définition par Albert Londres qui disait, de mémoire, nous ne sommes pas là pour dire la vérité ou pour faire du tort, mais nous sommes là pour mettre le stylo dans la plaie.
La plume, là où ça fait mal.
La plume où ça fait mal, voilà.
Et Camus disait, le journaliste est l'historien du présent, ce qui est exactement, une très jolie aussi. Formule.
Encore un aphorisme, hein, ouais, décidément. Ouais. Que dirait de vous aujourd'hui la personne de 30 ans que vous étiez ?
Alors là, c'est vos questions. Quand j'avais 30 ans, voyez-vous, j'avais des jumeaux. J'étais très occupé par mes enfants.
Vous n'aviez pas d'ambition enfin...
Et le troisième devait arriver aussi.
Oui, mais et ça, donc, c'est factuel. J'étais... Mais qu'est-ce que vous étiez?
Mais non, mais j'avais peut-être qu'à cette époque-là, j'avais moins de regard sur la vie politique. J'avais une vie familiale intense. Et voilà. Et donc, quand j'avais 30 ans, c'était les années 2000. Qu'est-ce que je dirais de moi aujourd'hui? Je sais pas. Comment voulez-vous que je me qualifie? C'est vachement compliqué, votre question. C'est difficile de se juger soi-même.
Pour terminer, peut-être, est-ce que vous avez vu et revu tous les Don Camillo et Pépone? Italie, le prêtre, traditionnaliste, évidemment, on est dans les années 30 en Italie, et Pépone, le maire communiste.
Mais j'adorais cette série. Je la regardais beaucoup. Ouais. Ça me faisait hurler de rire.
Et le communiste et le curé qui se détestent tendrement, mais qui s'aiment vigoureusement.
Mais ils s'aiment vigoureusement, passionnément. Mais c'est peut-être pour ça que j'aime à citer le pape, parce qu'on a un pape aujourd'hui, le pape François, et je trouve qu'il prend des positions, parfois...
Encore vous renvoyer dans le camp des tradis.
Que j'estime... Non, mais c'est important quand même. C'est pas souvent qu'on a eu des papes qui ont pris des positions fortes pour dénoncer l'argent qui est le fumier du diable, pour lancer un appel à la solidarité envers les migrants. Heureusement que de temps en temps, il a des prises de position comme ça et ça fait du bien.
Alors,
c'est pour ça que le clin d'œil entre le dirigeant du Parti communiste français et le pape, encore aujourd'hui, j'aime bien l'entretenir.
Allez, on passe à la chronique Parfum de campagne avec Karim Yayaoui qui nous rejoint sur ce plateau. Bonsoir Karim.
Bonsoir à tous.
Comment allez-vous?
Ça va bien et vous?
Merci d'être avec
Bonsoir.
Nous. Donc je vous livre donc Fabien Roussel.
Alors on va parler un petit peu des parrainages, c'est le sujet du moment et c'est aussi un sujet qui revient très régulièrement à chaque élection présidentielle en réalité depuis que le nombre de présentateurs, c'est le terme consacré et non pas parrain, a été fixé à 500 par la loi. Alors on pourrait résumer ça en un affrontement entre légalité et légitimité. Il y a ceux qui considèrent qu'il y a la légalité de la loi et ses 500 parrainages. Et puis, il y a ceux qui considèrent que la légitimité est ailleurs, c'est-à-dire aller chercher du côté des scores réalisés lors de scrutins précédents, du côté des sondages, du côté de la solidité d'un programme politique. Alors, certains candidats expliquent qu'ils ont du mal à rassembler ces parrainages alors qu'ils ont parfois été au second tour de la présidentielle. C'est le cas de Marine Le Pen. Alors, que pensez-vous de ce débat entre légitimité et légalité, Fabien Roussel?
Moi, je considère que les 500 parrainages que chaque candidat doit recueillir et la transparence qui existe aujourd'hui est une bonne chose. D'abord parce que l'élection présidentielle est une élection importante, même si je conteste l'hyper-présidentialisation de notre République et que je préférerais que l'on redonne le pouvoir au Parlement. En tout cas, l'élection présidentielle est là, elle est importante. Et il faut quand même prendre garde qu'il n'y ait pas d'aventurier qui puisse s'y présenter. Et donc, de solliciter le parrainage de 500 maires, conseillers départementaux, régionaux, parlementaires, est une forme de garantie. Mais nous, on ajoute aussi 500 parrainages ou 1 million de concitoyens, qui peut être aussi une forme de garantie. Et que ça puisse être transparent, c'est important, parce que quand même, quand on a des personnages dangereux pour la République, dangereux pour la République, qui défendent Pétain, donc vous savez à qui je fais référence. Eh bien, oui, c'est important que ce soit aussi transparent, les parrainages, et qu'on verra qui ose se mouiller pour soutenir des personnages comme cela, parce qu'ils représentent un véritable danger pour la République.
Alors, vous avez évoqué les aventuriers qui pourraient se présenter à la présidentielle. C'est vrai qu'à l'origine, c'était aussi ça l'idée, essayer d'éviter les candidatures loufoques. Pourtant, il y en a eu beaucoup au cours de la Ve République. Je vous propose d'écouter un candidat qui s'appelle Aguigui Mouna. C'était en 1988 et il s'est présenté à plusieurs reprises. Regardez ce petit extrait.
Bon, alors, mon programme, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est changer les mentalités. Ça, c'est Mais alors après, bon, alors organiser des fêtes, par exemple la retraite à 15 ans, chacun sa bombe à ce général, des vélos pas trop d'auto, du gazon pas de béton, des moutons pas de canon, ça tient debout quand même parce qu'on voit la pollution qui a Tchernobyl, Tchernodébile et tout ça.
Alors ça vous fait sourire, pourtant Aguigui Mouna est devenu un petit peu une figure chez les écologistes parce que les thèmes qu'il évoquait de façon parfois un petit peu absurde, c'était tout de même eh bien, la pollution, les dangers de la pollution, de la surconsommation pour nos vies. Et puis qu'est-ce qu'une candidature loufoque ? Il faut rappeler qu'il y a encore quelques mois, quelques années, eh bien, on n'imaginait pas forcément Éric Zemmour se présenter. Alors, on va regarder quelques photos ensemble, des photos d'une époque révolue. On va commencer d'abord avec une photo qui date de 1974. On y voit François Mitterrand et Georges Marchais. C'est en 1974, c'est un meeting à la porte de Versailles. Évidemment, c'est aussi le début du programme commun qui va permettre à la gauche d'arriver au pouvoir en 1980. On va voir une autre photo, celle-ci en 1980, justement.
Les ministres communistes.
Exactement, les ministres communistes sur le perron de l'Élysée. Alors aujourd'hui, on a le sentiment que c'est très difficile d'espérer revenir à une collaboration entre partis de gauche. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Qu'espérez-vous ? Parce qu'on sent bien que c'est très difficile en ce moment pour la gauche.
Mais justement, moi, j'aspire à ce que l'on puisse créer de nouveau les conditions de gouverner ensemble, mais au service du monde du travail, du progrès social. Et j'aspire à ça. Et à l'époque, mais c'est un très bon exemple que vous citez, l'époque, c'est 81. Il n'y a pas de candidature unique à gauche, hein. Je vous rappelle que si Mitterrand il est élu, c'est grâce à Georges Marchais qui fait 15% au premier tour. Et si Mitterrand met des réformes en œuvre importantes comme la nationalisation des banques, la création de l'ISF, c'est Georges Marchais la création de l'ISF, hein, quand il disait au-dessus de 40 000, crac, je prends tout. Et c'est comme ça que Mitterrand crée l'ISF en 81. Et c'est Macron qui l'enlève là aujourd'hui. C'est une sacrée histoire. Et donc justement, le poids donné au Parti communiste français à travers la candidature de Georges Marchais en 80 au premier tour fait que la gauche, elle a une autre couleur, elle a une autre saveur et elle a du sens. Et
on oui, fait, mais après, on mène, bye bye les communistes.
On mène pas la même politique en France quand il y a un Parti communiste français à 15% ou quand il est réduit à 2%. C'est le sens de la campagne que je veux mener. Redonnons du sens à une vraie gauche, à une gauche qui va retrouver ses valeurs, défendre le monde du travail, défendre le pouvoir d'achat, la sécurité pour tous. Enfin, c'est ça, quoi. Et notre art de vivre, c'est aussi ça. Et donc, ça ne s'oppose pas au fait qu'on puisse présenter une candidature au premier tour et aller convaincre
Roussel,
tous ceux qui ont été
déçus. J'ai le rôle très ingrat de veiller sur la pendule en fin
d'émission. Allez-y.
Je le fais jalousement. J'ai le devoir de vous dire que cette émission est terminé.
C'est pas vrai.
Merci.
Merci beaucoup, Karim. Merci à vous, Fabien Roussel. Merci beaucoup.